Top feeling now is killing. For peace, no one is willing. Kinda make you get that feeling. Everybody's smarting. Use the peel on the dough. Educated fools from uneducated schools. Pimping people is the rule. Bienvenue à toutes et à tous dans cette première émission d'À l'écoute du cinéma. Je suis Thomas Roland, je suis entre autres critique de cinéma et je vais vous parler des prochaines sorties salles qui sont à venir en ce mois d'octobre. En ce mois d'octobre, une actualité qui s'avère plutôt riche et diverse avec plusieurs sorties attendues. Bien évidemment, je ne pourrais tout évoquer, et même si certaines grosses productions me font aussi envie, je vais juste les évoquer rapidement. Alors le 9 octobre, Le Lion de Venise, Lion d'or de Venise, Joker de Todd Phillips, voilà le film qui est quand même assez attendu avec Joaquin Phoenix. Little Monsters aussi, une comédie d'horreur signée AB Forsyth avec la belle Lupita Nyong'o qui sort le 16 octobre. Une adaptation de Stephen King par Mike Flanagan, Dr. Sleep, hein, le roman qui fait suite au Shining du même Stephen King. Enfin, une semaine plus tôt, j'ai fait un petit bond dans le temps, le 23 octobre, et j'ai fait exprès de faire ce petit bond dans le temps. Le 23 octobre sort Terminator Dark Fate de Tim Miller avec Arnold Schwarzenegger et surtout Linda Hamilton qui reprend son rôle de femme forte des deux premiers films de la saga. Ah, des femmes fortes justement, nous allons rencontrer au cours de cette émission étant donné que nous allons parler de films de femmes, des films qui parlent des femmes réalisés par des femmes. Commençons tout de suite par les sujets qui fâchent. Je vais en effet parler tout d'abord de films pas très bons, voire carrément mauvais. Tout d'abord, Sœur d'armes, le premier long métrage de fiction signé Caroline Fourest. Caroline Fourest, qui est la journaliste d'investigation très connue et un peu plutôt abonnée aux polémiques hein, sur les plateaux télé et ailleurs. Elle avait déjà réalisé des documentaires, et là c'est son premier long métrage de fiction. Donc elle s'attache à suivre un peloton d'élite composé de femmes, qui s'appelle les Filles du Soleil, et que ce sont des femmes qui combattent en Syrie contre le régime de Bachar al-Assad et contre la montée de l'intégrisme musulman. Ce sujet avait déjà été abordé par la réalisatrice Eva Husson en 2018, dans un film tout simplement intitulé « Les filles du soleil ». Le film avait été fraîchement accueilli alors qu'il n'est pas dénué d'intérêt malgré des maladresses et des facilités. Quand on voit le film de Caroline Fourest, on réhabilite le film de Eva Husson. Caroline Fourest, donc on connaît l'engagement contre les droites extrêmes et leurs différentes manifestations, réalise un film qui exclut toute forme de subtilité. On suit le parcours de Zara, qui se fait enlever par des djihadistes, qui sont bien évidemment très méchants, ricanants et sans aucune humanité. Il pille son village, tue son père sous ses yeux, enlève son petit frère pour le transformer en bombe humaine. Sous la coupe d'un lieutenant djihadiste, Zara se fait violer, vit un véritable calvaire jusqu'au jour où elle arrive à s'enfuir avec une facilité assez déconcertante. Dans sa fuite, elle croise ses fameuses filles du soleil et décide de les rejoindre dans leur combat. En parallèle, deux Françaises, une de confession juive et l'autre musulmane, rejoignent les Filles du Soleil. De leur entraînement, on ne verra pas grand-chose, et surtout, la mise en scène, les situations humoristiques déjà calquées 100 fois donnent l'impression qu'elles partent la fleur au fusil. Tout sonne faux dans Sœur d'armes, le film enchaîne les clichés dès le premier plan, les dialogues sont téléphonés, il n'y a aucune idée de mise en scène, les personnages sont dessinés à gros traits et le scénario s'enferme dans un manichéisme ridicule qui était déjà anachronique dans le film de guerre américain des années 60-70. En fait, Sœur d'armes ressemble beaucoup à du cinéma de propagande mal dégrossi qui privilégie l'émotion à la réflexion. La vision de la guerre reste très édulcorée, elle est montrée comme une balade sympathique, les horreurs de la guerre restant hors champ. Caroline Fourest use et abuse des plans filmés avec des drones. Le film est visuellement n'est vraiment pas beau. Franchement, c'est un film qui est plus ridicule, où on s'ennuie plus, où on peut aussi éclaté de rire quasiment à chaque plan. Dès le premier plan, c'est très cliché. Alors, pour ceux que ça intéresse, la sortie du film est prévue le 9 octobre.
Ni da nga wara mariewu dans 10 jours ak Omar ci kanamu yalla
mo dia mo dama bëgg Souleyman
3 mois fay ñu ko xamna 4 mois fay ñu xala dem
ñu jëm xabu mo la
ñor ak jabo keur la
sank bu leg ma lay gis lan la bayu gudi rek bayu gudi ma ngi dem.
Un peu plus intéressant, plus tôt dans le mois, le 2 octobre, sort un film plutôt attendu, Atlantique, une coproduction entre la France, le Sénégal et la Belgique, de Mati Diop. Donc après la Syrie, nous allons à Dakar, au Sénégal, car ce premier long métrage de Mati Diop qui a reçu le Grand Prix au dernier festival de Cannes. Je me demande encore bien pourquoi. Se passe donc à Dakar, au Sénégal. Mati Diop, c'est la fille de Wazis Diop, d'un compositeur de musique, mais notamment des musiques des films de Djibril Diop, Mambéty, dont elle est un grand réalisateur sénégalais, dont elle est la nièce. Elle réalise un court-métrage en 2013, Mille Soleils, qui est à la fois une suite et une variation sur Tuki Buki, que réalise Djibril Diop Mambéty en 1973, qui est un film assez célèbre pour qui s'intéresse un peu au cinéma qui viennent d'Afrique. Et donc, avec Atlantique, elle tente de renouer avec le cinéma politique et poétique de son oncle. Souleymane aime Ada, mais Ada est promise à un autre homme plus riche. Un soir, alors qu'Ada pense retrouver Souleymane dans la boîte où ils ont leurs habitudes, elle apprend qu'il est parti en pirogue pour l'Espagne avec d'autres jeunes hommes. N'ayant pas été payé par l'employeur, les jeunes hommes en question ont décidé sur un coup de tête de tenter leur chance en Europe. La raison du voyage s'avère plutôt légère, hein, mais bref, passons. Par dépit, Ada se marie avec son promis. Mati Diop en profite pour mettre en évidence les traditions et mœurs liées à l'islam au Sénégal, où le paraître, la réputation prime sur le reste. Peu importe qu'Ada soit amoureuse, pour ses copines, elle n'a qu'à profiter de la richesse de son mari et des différents bienfaits matériels qu'elle peut apporter. Le soir du mariage, un incendie se déclare dans la chambre des époux. Certaines personnes affirment avoir vu Souleymane et disent qu'il est à l'origine du feu. Seulement, Souleymane est bel et bien mort dans le naufrage de la pirogue qui l'emmenait en Espagne. D'autres événements étranges se manifestent à Dakar. Ainsi, l'employeur de Souleymane voit sa villa investie par des jeunes femmes au regard livide qui lui demandent d'être payées. Les fantômes des naufragés reviennent-ils à réclamer leur dû ? Si l'idée de départ de Mati Diop de montrer l'immigration de jeunes Sénégalais vers l'Europe est intéressante, il faut avouer qu'elle est assez mal exploitée. Son film se révèle plus décousu que contemplatif, la faute à un scénario qui effleure ses thèmes se montre plutôt disparate. Ainsi, la jeune cinéaste et son co-scénariste, Olivier Demangel, évoquent les mariages arrangés, vaguement la difficulté de s'aimer librement dans une société où les traditions ont encore beaucoup de poids, la difficulté de trouver du travail et de vivre. Atlantique est un peu fourre-tout, ne choisit ni réellement sa thématique, ni réellement la tonalité avec laquelle elle les traite. Mati Diop a parfois de belles idées de mise en scène, fait quelques beaux plans sur Dakar la nuit, propose quelques visions fantastiques, mais le film se révèle pourtant très inégal. Certaines scènes sont visuellement pauvres et font très téléfilm. Surtout dans un film qui semble vouloir mettre les femmes en avant, le gros problème réside surtout dans la façon dont la réalisatrice les personnifie. Les petites amies possédées par les fantômes de leurs copains sont habillées et décrites comme des prostituées. Dès leur première apparition, dans une scène pourtant visuellement très belle d'un bar de nuit vide, elles apparaissent comme des belles de nuit qui attendent le client. Il y a aussi ce plan, alors que les fantômes ont pu récupérer leur argent, de cette jeune femme allongée sur un lit, des liasses de billets dans sa main et éparpillées autour d'elle. Si certains plans sur Mama Sané, l'actrice qui joue Ada, s'avèrent très beaux, plein de sensualité, le regard que Mati Diop pose dessus laisse plutôt songeur. Atlantique peut se voir comme une curiosité, mais encore une fois, il est dommage que ce soit un film qui donne une image douteuse ou biaisée de l'Afrique, qui se fasse remarquer et qui soit visible dans les salles obscures françaises.
Ayane, je passe.
Ada, un taxi clandestin, mais je suis cabaret.
T'as l'air de là.
Les ailettes, la cité.
Qu'en est-ce que la cité a débordé, la ciel ouvert.
هاك عرقيهم تما بالبليس لا تاكي في بعض سون بيدي نقولهم بلي تجي مطريا واحد ما فاقري
العام الجاي نحل حانوت
سي كوا سا.
Après un mauvais film et un film plutôt moyen, je vais enfin évoquer un bon film qui m'a enchanté. Papicha est le premier long métrage de Mounia Medour, une jeune réalisatrice qui a déjà son actif deux documentaires et un court métrage. Alors, nous sommes à Alger dans les années 90. Nejma a 18 ans, elle est étudiante dans une cité universitaire. Elle rêve de devenir styliste. Et à la nuit tombée, elle fait le mur avec son amie pour se rendre dans une boîte de nuit où elle vend ses propres créations aux papichas. Alors les papichas, ce sont les jolies jeunes filles algéroises. Mais en parallèle, la situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Alors Nejma refuse cette réalité, cette fatalité. Elle décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. Papicha est un film qui m'a impressionné par la maîtrise de sa mise en scène et je suis ressorti de la salle tout à fait enchanté. Enchanté d'avoir vu un excellent film qui, selon moi, devient rare aujourd'hui alors qu'on a un peu tendance à s'uniformiser ou à se confondre dans des discours un peu consensuels. Bien sûr, on peut toujours trouver quelques faiblesses au film, comme la façon dont elle dépeint les femmes voilées qui forment des milices qui vont prêcher la bonne parole et la bonne morale. Toutes ces femmes qui sont voilées quasiment jusqu'aux yeux, des pieds à la tête, elles ont toutes l'air d'être des mal baisées et je trouve que c'est un peu cliché. Il y a aussi dans la façon dont la réalisatrice écrit les rôles masculins qui sont un peu pas très nuancés. Ils vont de macho à misogyne, enfin gentil macho jusqu'à méchant misogyne, avec tous les degrés qu'il peut y avoir entre les deux. Mais je trouve que c'est pas très subtil de ce côté-là. Malgré cela, alors Papicha est traversé d'une force et d'un souffle que l'on peut encore voir rarement de nos jours au cinéma. Mounia Medour assume un choix de mise en scène qu'elle tient sur presque 2 heures et qui peut, au premier abord, plutôt gêner. Parce que en fait, son film est constitué en grande partie de gros plans et de cadres serrés. Cela peut paraître anxiogène. Et cela peut aussi traduire, être en rapport avec la description d'une société peu permissive, au poids d'une religion interprétée à travers des prismes idéologiques. Mais pourtant, Papicha parle aussi de la force de l'imagination, de la création. Si Mounia Medour filme ainsi, c'est aussi pour montrer que son personnage vit dans sa bulle, en dehors du monde et de l'actualité qui pourtant se montre de plus en plus alarmante. On est tenté de se dire qu'un film presque entièrement tourné ainsi peut se révéler ennuyeux, que ce n'est pas du cinéma, que ce n'est que de la série télé. Et pourtant, Papicha bénéficie bien d'une texture cinématographique, car il y a un vrai souffle qui traverse l'image, grâce à une superbe direction de la photographie de Léo Lefebvre, un directeur de la photo qui vient du cours, du documentaire et de la télévision. Pourtant, il me semble que c'est son premier long métrage de cinéma ici. Là, il arrive à donner une texture sensuelle au visage et aux étoffes, car il s'agit aussi de ça, dans la description d'un désir de liberté, d'être belle, de se faire belle, grâce à des étoffes, du tissu, à la façon dont on les arrange. Pour cela aussi, la réalisatrice travaille énormément le son, on entend le bruit des étoffes, des draps qui sèchent, claqués au vent. Dommage cependant que la réalisatrice met un peu trop de musique, gâchant un peu ce formidable travail sur le son, car la musique, en effet, elle a un peu tendance à surligner et les actions et les émotions, ce qui est un peu dommage et qui rentre en conflit avec ce très beau travail sur le son. Mais certaines séquences se démarquent particulièrement, comme le rituel de funérailles, dont le découpage s'avère particulièrement minutieux et donne un petit côté mystique à ce film qui est plutôt politique et social. Hein. Un Papicha est, pour moi, je le répète, une excellente surprise, un film très rythmé, car il y a un travail de montage énorme. Il faut donner du rythme à ces gros plans, à ces cadres serrés. Il faut que ce soit rythmé, quoi. Il faut que ça aille vite, sans pour autant que ce soit surdécoupé, illisible. Hein. Alors, il y a peut-être une petite longueur vers la fin, mais elle repart aussi vite qu'elle a apparu dans une scène qui décrit les préparatifs du défilé, comme si nous y étions. Il y a aussi parfois ce petit côté, on sent qu'elle a fait du documentaire, hein, on sent qu'elle a fait quelques documentaires avant. Et il y a ce petit côté, je filme en coulisses, qui n'est pas déplaisant, mais c'est un superbe cinémascope, hein. L'image est vraiment magnifique. Et pour moi, Papicha, c'est... j'ai pas tout vu non plus, j'ai pas vu tous les films qui sortent en octobre, mais Papicha, c'est pour moi le meilleur film de ce mois d'octobre, le film à voir ce mois-ci. Et il sort le 9 octobre et je vous invite toutes et tous à vous précipiter à le voir. Pour l'instant, dans les sorties salles, les films de femmes qui parlent de femmes, c'est tout ce qu'on a vu pour l'instant. Et là, nous allons changer complètement d'univers. Nous allons aller vers le cinéma d'animation avec une sortie d'un programme de films courts, un programme de films courts qui ont été réalisés dans les années 60 et 70. Il s'agit des 7 premiers courts-métrages réalisés par Jean-François Laguioni. Jean-François Laguioni, il est connu notamment pour ses films les plus récents. Là, en ce moment, c'est Le Tableau, par exemple, ou plus récemment, Louise en hiver. Jean-François Laguioni se trouve donc avoir 3 actualités cette année, pas moins de 3 actualités cette année. Et oui, une sortie en DVD, une très belle édition de Gwen le livre de sable, son premier long métrage d'animation qu'il a réalisé en 1985, Gwen le livre de sable, qui paraît dans une édition DVD qu'un beau livret, avec où il parle de la création lui-même du film, une sorte de texte de livre de bord, et puis il y a aussi des esquisses, des croquis des personnages, de la création du film. Alors Gwen, le livre des sables, c'est pas un film d'animation pour enfants. Jean-François Laguioni se défend d'associer automatiquement cinéma d'animation et enfance. Il fait des films d'animation plutôt pour adultes, et Gwen le livre de sable, c'est l'histoire de Gwen, une jeune femme qui est récupérée par une tribu nomade dans un univers post-apocalyptique dans le désert, et parfois la nuit il y a une créature, une entité qui arrive et qui déverse ce qu'ils appellent des images. Alors les images, en fait, ce sont des objets de notre quotidien qui ont une taille disproportionnée par rapport à la taille des humains. Et un jour, Gwen est avec son petit ami la nuit dans le désert, et son petit ami se fait enlever par cette entité. Et elle décide, avec une vieille femme qui trouve injuste que ce soit lui qui soit parti à la place de Gwen, qu'elle pense que c'est Gwen qui aurait dû être enlevée par cette entité, le Maku. Cette entité, on l'appelle le Maku, qui veut échanger ce jeune homme contre la vie de Gwen. Alors, ils vont traverser un paysage désertique. Après, il va y avoir, c'est très poétique, la façon dont Jean-François Laguioni traite les décors avec des objets disproportionnés en taille. C'est vraiment un très beau dessin animé, très poétique, quelque part un peu politique. Il y a un petit peu d'humour, un petit peu d'ironie. On sent qu'il y a ce regard sur la société de consommation chez Laguioni qui est là, et qui est là déjà depuis ses premiers courts-métrages. Donc je recommande à tous l'achat de ce superbe DVD qui est donc Gwen le livre de sable, qui est sorti aux éditions La Traverse. C'est un très bel objet que je recommande à tous les amateurs de cinéma d'animation. Jean-François Laguioni est l'un des meilleurs réalisateurs d'animation en France.
«
La deuxième actualité qui concerne Jean-François Leguioni en ce mois d'octobre, c'est la sortie de ce programme de ses sept premiers courts-métrages. En fait, il en a fait 8, mais là, il y en a 7 de ses 7 premiers courts-métrages qui sortent sous l'appellation « Les mondes imaginaires » de Jean-François Leguioni. Alors, parmi ce programme, il y a « L'acteur », réalisé en 1975, « Le masque du diable » en 1976, « La demoiselle et le violoncelliste » en 1964, « Une bombe par hasard » en 1969, « Potre et la fille des eaux » en 1974, « L'arche de Noé » en 1967 et enfin « La traversée de l'Atlantique à la rame », c'est un court-métrage qui remporte en 1978 la Palme d'Or du court-métrage officiel de Cannes et le Grand Prix du Festival international du film d'animation d'Ottawa ainsi que le César du meilleur court-métrage d'animation en 1979. Donc on n'est pas avec n'importe qui. Alors, ce sont des courts-métrages assez mélancoliques qui parlent des apparences, qui parlent de la notion de masque, de la dissimulation. C'est très poétique, c'est fantastique, surréaliste, c'est parfois même un petit peu misanthrope. Hein. Il y a aussi chez Leguioni, comme on peut le voir comme dans Louise en hiver par exemple, quelque chose par rapport au retrait, par rapport au monde. Donc ce sont des... Je recommande vivement ce programme de films de Jean-François Leguioni, Les mondes imaginaires de Jean-François Leguioni, qui sont prévus de sortir le 2 octobre. Alors j'espère qu'ils vont sortir dans les salles à Amiens, car ce sont des choses vraiment à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui ne les avaient jamais vues comme moi. J'en ai terminé avec la partie des sorties salles, la partie actualité, pour aborder une petite partie qui va me permettre de conclure chaque émission, la partie agenda. Malheureusement, là, pour l'instant, je n'ai qu'une date à vous annoncer. Ça va être un petit peu de l'autopromo, mais c'est pas grave. Donc, nous allons aller à Tourotte le 31 octobre, parce que l'automne approche, hein, nous sommes en octobre, et l'automne avec lui apporte ses couchers de soleil plus tôt, le froid, les feuilles mortes, mais aussi la soirée attendue par pas mal de monde, la fameuse fête celtique d'Halloween qui nous vient d'Irlande après avoir fait un petit crochet aux États-Unis. À cette occasion, le ciné-club organisé par Les Films de la Gorgone, l'association Les Films de la Gorgone, propose de visionner L'Exorciste ensemble, L'Exorciste de William Friedkin. Malheureusement, il s'agira du montage de 2001, William Friedkin la considérant comme étant officielle maintenant. Cette soirée aura lieu, je ne sais plus, je n'ai pas l'heure exacte, si c'est 19h30 ou 20h, 19h30 ou 20h, à la salle Saint-Gobain, à Tourotte, dans l'Oise, place Saint-Gobain. Donc, je serai présent ce soir-là parce que je suis un grand admirateur et connaisseur du cinéma de William Friedkin, et je serai présent pour présenter le film et animer le débat à l'issue de la projection. Alors peut-être que 31 octobre oblige, comme l'année dernière, peut-être qu'il y aura une animation supplémentaire, mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure de donner plus de détails par rapport à cela. Voilà, sur ce, c'était à l'écoute du cinéma, voilà. J'espère que nous nous réentendrons le mois prochain pour de nouvelles sorties et surtout parler de cet événement qui a lieu tous les mois de novembre à Amiens, le Festival international du film d'Amiens. Bonsoir à toutes et à tous et à bientôt.